France Inter, le 18-20. Fabienne Sintès.
Un jour dans le monde, c'est un jour entre Israël et les États-Unis ce soir.
The result of the voting is as follows. 14 votes in favor, 0 vote against, 1 abstention.
The draft resolution has been adopted as resolution.
Et l'abstention, c'est celle des États-Unis et c'est ça qui a fait bouger beaucoup de lignes depuis ces 24 dernières heures. Bonsoir Denis Charby.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université libre d'Israël. C'est peu dire, Monsieur Charby, que les relations entre Benjamin Netanyahou sont aussi tendues que possible depuis, avant déjà, mais depuis ce refus de veto américain, si je puis dire, aux Nations Unies. Benjamin Netanyahou, pour l'instant, il joue sa coalition contre les États-Unis. En tout cas, c'est ce qui semble. Est-ce qu'il a la main dans ce bras de fer-là? Qui a la main exactement?
Je pense qu'il est persuadé, lui, qu'il a la main, parce qu'il sait qu'il y a des élections présidentielles au mois de novembre et qu'il n'imagine pas une seconde que Biden puisse lâcher Israël, parce que ce serait fournir à Donald Trump un argument en or pour gagner les élections en prétextant que Biden a trahi Israël. Et donc, il joue son va-tout. C'est vrai qu'il va très fort. Il fait des déclarations tonitruantes pour dire qu'il ne se laissera pas dicter sa politique. Il joue la carte de l'indépendance, la carte de la fierté nationale, et il le fait en bravant avant les Américains, si ce n'est que aujourd'hui c'est Biden, c'est pas Obama. Avec Obama, c'était très facile pour Benjamin Netanyahou de s'opposer à lui publiquement, d'aller le défier. Eh bien, il continue sur cette même ligne. Alors, il ne va pas au Congrès aujourd'hui, mais d'une certaine manière, il est non grata aux États-Unis. Mais il décide, par exemple, de ne pas envoyer une délégation diplomatique israélienne qui devait se rendre aux États-Unis, alors qu'il s'était mis d'accord là-dessus.
Et en même temps, il y a une part de réalité, Denis Charby, parce que Netanyahou, certes, vous l'avez dit, défie les Américains. Il leur dit même, nous n'avons pas besoin de vous. La réalité, c'est que sans les armes américaines, Israël est nu, mais que pour l'instant, les Américains n'ont pas coupé ces vivres-là. Ils n'ont pas été jusque-là.
Effectivement, je dirais le pari, c'est encore une fois la perspective électorale qui fait que Biden n'a pas les mains complètement libres, mais il n'a plus peur aujourd'hui d'afficher publiquement, alors que la méthode Biden jusque-là, depuis le mois d'octobre, avait toujours été de garder un soutien public de manière très claire et en coulisses, dans les antichambres, dans les discussions privées auxquelles nous ne sommes pas exposés, eh bien de dire ce qu'il avait à dire à Netanyahou. Eh bien voilà, Biden, et c'est pas la première fois, Blinken l'a fait avant, Kamala Harris également, eh bien décide de hausser le ton et c'est une sorte de bras de fer dont on se demande comment elle va se terminer, et il n'est pas sûr qu'elle tourne à l'avantage de Netanyahou, dans la mesure où dans l'opinion publique israélienne, on est partagé. Certains disent l'indépendance avant tout, et d'autres disent, attention, on ne peut pas, à cause de cette dépendance que cette guerre justement a révélée, on se croyait une superpuissance, ou en tout cas une puissance régionale, on s'est rendu compte qu'on est très dépendant des États-Unis, et certains pensent en Israël, et notamment dans sa coalition, enfin ceux qui l'ont, le parti d'opposition qui l'a rejoint, que c'est joué avec le feu.
Alors, on va y venir à l'opinion publique américaine. Denis Charby, ce matin, en lisant la presse française, en lisant Libération, pour tout vous dire, ils ont exhumé cette phrase de Moshe Dayan qui date de 67 et qui dit ceci: Nos amis américains nous donnent des armes, de l'argent et des conseils. Nous prenons les armes et l'argent, nous déclinons les conseils. Est-ce que cette phrase pourrait s'appliquer jusque-là? Est-ce qu'elle s'applique encore? Est-ce qu'au contraire, c'est maintenant que cette phrase ne tient plus, alors qu'elle tenait effectivement depuis 1967?
Je dirais, pour peut-être prendre un peu de recul par rapport à ce qu'a dit Moshe Dayan, que des conseils, on en a pris, mais c'était pas des ordres. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ça devient une partie si tendue que les Américains n'hésitent pas à donner des ordres. Ils l'ont déjà fait dans le passé, hein, en 1992, en 1956. 1956, ça remonte à loin. Eisenhower avait dicté aux Israéliens le devoir de quitter le Sinaï. En 1992, c'est Yitzhak Shamir qui avait reçu la douche froide. C'est peut-être aujourd'hui vers quoi on s'achemine, à ceci près que nous allons assister à un clivage très tendu entre, une fois de plus, deux parties de la population israélienne, les uns qui s'inquiètent de cet aventurisme politique, et les autres qui diraient, puisque nous sommes en France, qui diraient qu'il y a quelque chose de très gaulliste dans cette attitude de Netanyahou, qui estime que l'intérêt supérieur d'Israël est l'affaire des Israéliens. On peut donner des conseils, pas des ordres.
Mais ceux qui s'inquiètent de l'aventurisme, comme vous dites, Denis Charby, s'inquiètent-ils au point de réfléchir eux aussi à l'idée que peut-être il faut effectivement un cessez-le-feu, et il faut que ce soit un cessez-le-feu durable? Ou est-ce qu'il y a cette espèce de d'ambiguïté et même peut-être de lutte interne à l'intérieur de la société israélienne? Bien sûr qu'il faut faire attention, parce que si on perd les Américains et qu'on perd les armes, c'est très dangereux pour nous. Mais de là à pousser à un cessez-le-feu, il y a quand même un sacré pas à franchir, non?
Oui, il y a une très grande ambiguïté, même dans le camp de ceux qui s'opposent ou qui s'inquiètent de ce tournant, enfin de cette attitude que prend Netanyahou publiquement contre Biden et son administration. Pourquoi une ambiguïté? Parce que, qu'est-ce que dit Netanyahou? Il dit, sur le terrain, nous pouvons gagner la guerre. Or, c'est, je dirais, il comprend, je dirais, la logique de la guerre de guérilla. Dans une guerre de guérilla, tant que le Hamas, en l'occurrence, n'a pas perdu la guerre, il la gagne. Et tant qu'on n'a pas, par une défaite qu'on aurait imposée de manière très claire à l'ennemi, eh bien, on a perdu. Et c'est cela, et c'est ça qui fait que les Israéliens hésitent vis-à-vis d'un cessez-le-feu, parce que pour eux, un cessez-le-feu, cela veut dire maintenir le Hamas, fut-il affaibli, et ça veut dire surtout que la perspective de la paix qui anime le camp d'en face, le camp opposé à Netanyahou, eh bien, pourra difficilement exiger de la société israélienne qu'elle s'ouvre à la paix si le Hamas est encore présent. Donc, vous voyez, c'est beaucoup de paradoxes et c'est ce qui fait que l'opposition n'est pas unie contre Netanyahou, mais elle critique ce tournant diplomatique qu'il prend.
On va aller en Israël dans un petit instant, mais avant d'y aller, une autre question pour vous, Denis Charbi. Ce que les Américains essayent de dire aux Israéliens, en tout cas Blinken l'a encore fait récemment, c'est qu'Israël est en train d'abîmer durablement son image, voire pour plusieurs années, plusieurs générations, en leur disant c'est une erreur de ne pas en tenir compte. Moi, je me demandais si cet argument-là avait réellement du sens aux yeux des Israéliens. Vous nous avez expliqué ici même que l'état de traumatisme de la société israélienne depuis le 7 octobre était encore là. Est-ce que cet argument-là, il a du sens et il a du poids ?
Il a du sens et il a du poids. Il a du sens et il a du poids quand bien même l'autre partie le traumatise, on est seul souverain à décider et à déterminer. Mais quand on est aussi dans le traumatisme, on comprend quelque chose qui est capital dans l'histoire d'Israël depuis sa création. Israël ne s'est pas fait seul. Israël a besoin d'un appui diplomatique, a besoin d'un allié. Ça pouvait être les Soviétiques, ça pouvait être la France, c'est les États-Unis depuis un demi-siècle, et c'est très risqué pour Israël, c'est ce que pensent beaucoup d'Israéliens, que de braver les Américains. Mais c'est vrai que dans l'opinion, ça ne passe pas bien, parce qu'on a le sentiment que si on n'est pas compris, ce n'est pas parce que nous avons tort, mais parce que nous avons raison, et que cela fait partie de la destinée d'Israël, la destinée du peuple juif depuis 2000 ans. Alors, c'est très difficile de s'opposer à ce type d'argument.
Denis Charbi, restez avec nous. Il y a un autre point qui est important, c'est que la coalition, on l'a bien compris, et vous nous l'avez expliqué, ne tient que sur un fil pour l'instant, c'est compliqué, elle tient sur les ultra-religieux. Or, il faudra très bientôt statuer sur une question qui met cette coalition en danger et qui secoue l'ensemble de la société israélienne, c'est l'exemption de l'armée des ultra-religieux. Il y a une date limite, elle est pour le 1er avril, donc c'est lundi prochain, c'est demain. Bonsoir Thibault Lefebvre.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Notre correspondant à Jérusalem, Thibault, j'aimerais qu'on revienne là-dessus parce que c'est un sujet récurrent depuis des décennies. Mais là, nous sommes dans une guerre qui dure, dans la plus longue même qu'ait connue Israël. La question, elle est plus brûlante que jamais et elle touche l'ensemble de la société.
Oui, clairement, vous l'avez résumé, hein, le compte à rebours est lancé. Le gouvernement a donc jusqu'à lundi prochain, le 1er avril, pour proposer une loi qui encadre les règles d'exemption des hommes ultra-orthodoxes. Ordre de la Cour suprême, vous savez, la Cour suprême, c'est la plus haute juridiction du pays. Et s'ils n'y arrivent pas, eh bien, tous les religieux pourraient être enrôlés de force, s'il le faut, à partir du 1er juillet prochain. Alors évidemment, grosse colère des Haredim, c'est le nom qu'on donne ici aux ultra-orthodoxes, avec depuis quelques semaines des manifestations très violentes à Jérusalem. Colère aussi des plus progressistes, et notamment de tous ceux qui servent sous les drapeaux depuis le 7 octobre, que ce soit à Gaza, en Cisjordanie occupée ou à la frontière nord, à la frontière du Liban. Ils ont tous abandonné un travail, certains ont abandonné une entreprise, ils se sont éloignés de leurs proches, ils risquent leur vie au quotidien. Avec la guerre, l'armée israélienne, évidemment, eh bien, elle a besoin de soldats, 7000 environ, ce sont les dernières évaluations du ministère de la Défense. Alors, le nombre de jours de réserve a été multiplié par 3, la durée du service militaire a été allongée de 4 mois. Ceux qui combattent sont donc mobilisés plus longtemps, alors que les exemptés ne sont pas sollicités. Et vous l'avez compris, avec une guerre, un conflit qui s'enlise, eh bien ces inégalités sont devenues insupportables.
Thibault, on était là avec Denis Charbi dans l'état de la société israélienne aujourd'hui. Je me demandais jusqu'à quel point, on posera la question à Denis Charbi juste après vous, jusqu'à quel point ça la faisait tanguer, et même jusqu'à quel point ça faisait de toute façon tanguer, voire exploser la coalition, ce sujet-là précisément.
Oui, la coalition est à la fois fragile et solide parce qu'il y a une interdépendance de chacun des partis de cette coalition. Chacun a un intérêt à rester au gouvernement, mais c'est évidemment une équation insoluble hein, qui se pose là avec cette question sur les ultra-orthodoxes et leur participation dans l'effort de guerre, parce qu'il faut à la fois trouver de nouvelles règles d'exemption qui répondent au souci d'égalité qui est imposé par la Cour suprême, sans pour autant froisser ces partis ultra-orthodoxes qui tiennent, ils ont 18 députés, hein, ils tiennent avec leurs 18 députés la coalition de Benjamin Netanyahou, et c'est donc un bras de fer qui est engagé depuis plusieurs semaines. Alors, les religieux, faut bien comprendre qu'ils n'ont pas nécessairement intérêt hein, à quitter le gouvernement, parce qu'ils pourraient perdre énormément d'avantages, des avantages qui leur ont été concédés, beaucoup par les partis de droite, aussi par Yitzhak Rabin notamment, plus à gauche, des avantages qui ont été concédés depuis plusieurs années, par exemple l'accès gratuit aux crèches pour les étudiants des yeshivot. Vous savez, les yeshivot, ce sont ces écoles religieuses. Alors aujourd'hui, il faut savoir que des ultra-orthodoxes combattent malgré tout dans l'armée. Certains, très peu, par conviction, ou d'autres parce qu'ils ont rompu avec leur milieu d'origine. La loi impose d'en mobiliser un peu plus d'un millier par an. Ils sont réunis dans les mêmes bataillons, ils sont payés plus que les autres, et les règles de vie en communauté sont adaptées. Ils ne croisent pas de femmes, par exemple, pas de mélange, donc. Vous savez, Fabienne, ici en Israël, l'armée est appelée Tsahal. Tsahal, ça veut dire l'armée du peuple. Et plus que l'enjeu politique à court terme, c'est donc la cohésion de cette armée du peuple et plus globalement de la société qui est aujourd'hui menacée par le séparatisme.
Merci à vous, Thibault Lefèvre. Merci. Vraiment, c'est là-dessus que je voudrais qu'on conclue. Denis Charby, vous êtes bien placé pour savoir que chaque Israélien aujourd'hui a un fils ou plusieurs ou filles qui combat en ce moment dans la guerre contre le Hamas. Est-ce que ce genre de sujet, et comme le disait Thibault, est de nature non seulement à secouer la coalition, mais secouer aussi la société israélienne dans ce niveau de difficulté et même d'ambiguïté que vous décriviez tout à l'heure et qui est la sienne aujourd'hui?
Alors vous savez, après le clivage israélo-palestinien, le plus grand clivage qui divise Israël, et on l'avait déjà vu l'année 2023, c'est le clivage entre religieux et non-religieux. Pas parce que les uns croient au ciel et que les autres n'y croient pas, mais parce que en fonction de votre croyance, et ça concerne les orthodoxes, ça ne concerne pas ce qu'on appelle les sionistes religieux qui, eux, font leur service militaire, eh bien, c'est trop d'exemptions qui leur ont été accordées, trop de privilèges qui leur ont été accordés. Il faut le dire, avant le 7 octobre, le projet de loi qui était posé sur la table était celui de l'exemption définitive, alors que jusqu'à présent, ils bénéficiaient d'un sursis, et après ce sursis, on les dispensait du service. Et bien entendu que la guerre a tout gâché en quelque sorte, puisque bien entendu qu'aujourd'hui, venir réclamer au moment même où toutes les familles laïques et les familles sionistes religieuses se voient obligées d'envoyer leurs enfants pour 3 ans et non plus pour 2 ans et 8 mois, bien sûr que cette inégalité, ce privilège-là apparaît comme une injustice. Et c'est pour ça que le gouvernement israélien pourrait tomber. On voit d'ailleurs le ministre de la Défense, qui fait partie de cette même coalition, qui est du Likoud, et qui dit « Moi, je ne peux pas voter un projet qui laisse de côté les orthodoxes ». Donc voilà un deuxième clivage. Ce serait l'ironie de l'histoire si ce gouvernement tombait non pas à cause de la guerre, mais à cause de ce projet de loi.
Et c'est passionnant. Denis Charby, professeur de sciences politiques à l'Université libre d'Israël. Merci beaucoup.